Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Termine. Je suis Luca et je vous propose de rencontrer des étudiants qui ont fait des cursus très compétitifs et bravé les concours que beaucoup redoutent. Déjà étudiant dans cette filière ou futur étudiant, je vous propose de plonger dans le domaine d'études qui vous correspond et vous intrigue. Au long de ces discussions, nous allons découvrir ensemble les différentes stratégies et mécanismes pour devenir plus productif que les autres et accéder à la réussite. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Monsieur Collet, médecin nucléaire, et Adil Salah, étudiant en troisième année de médecine. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et la méthodologie de travail, j'aimerais bien que Henri, tu nous présentes un petit peu ton histoire.
Bon, bah écoutez, j'ai 50 ans, je suis médecin nucléaire. J'ai commencé mes études après mon bac en 1986, histoire de poser le débat. Donc je commence à me faire un peu vieux. Et voilà, donc on va essayer de parler de la médecine et de la médecine nucléaire, de son évolution sur ces quelques dizaines d'années. Je vais parler de mes souvenirs qui ne sont pas encore trop lointains. Donc la médecine nucléaire, je fais rapidement, ça permet de faire une image, c'est de l'imagerie médicale, ça permet de faire une étude du fonctionnement ou du mauvais fonctionnement des organes afin d'améliorer le diagnostic que se pose en tout cas un médecin vis-à-vis de son patient dans tout un tas de pathologies et de spécialités différentes. Donc on embrasse dans ce métier toutes les pathologies possibles, de l'endocrinologie, la cardiologie, les pathologies osseuses, la cancérologie bien sûr, et la neurologie, l'urologie, un peu toutes les spécialités peuvent adresser des patients pour améliorer, poser des hypothèses et essayer de trouver un meilleur diagnostic. Donc ça c'est la première partie, et maintenant depuis quelques temps on se permet beaucoup en fait de suivre en tout cas l'évolution des traitements, d'anticiper les réponses, notamment en cancérologie. On arrive très rapidement sur certaines pathologies à anticiper en tout cas la réponse sans aller au bout du traitement et de prédire si le traitement est déjà efficace très rapidement. Ce qui est un gain pour les patients énorme, parce que quand le traitement marche, on sait qu'il faut absolument le poursuivre, mais on peut prédire si le traitement ne marche pas, et donc sans aller au bout du protocole thérapeutique, déjà d'anticiper son échec, et donc de basculer directement sur un nouveau protocole. Donc ça fait partie des progrès quand même très intéressants dans notre spécialité et dans la médecine en général.
Et alors du coup, pour revenir un petit peu sur ce que tu fais au jour le jour, la méthode utilisée c'est la scintigraphie, c'est ça ?
Exactement.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus
Alors la scintigraphie, c'est très simple, on va d'abord identifier un problème, s'il faut que le clinicien ait déjà un problème ou une question à nous poser, donc définir l'organe qui pose problème, ensuite dans l'organe avoir déjà une idée de la pathologie ou des pathologies éventuelles. Nous ça va nous permettre de choisir une molécule qui va refléter ou qui va être prise en charge par cet organe, et afin de savoir où est allée cette molécule, on lui a greffé un atome radioactif. Et donc ça va nous permettre de suivre l'évolution de ce médicament, de cette molécule, dans le patient. Et donc de comprendre, donc on peut faire des examens statiques, c'est-à-dire que le produit se fixe directement sur un organe, on va étudier comment il s'est fixé. Ça va nous permettre éventuellement de faire des études dynamiques, c'est-à-dire de suivre au cours du temps l'évolution de cette molécule, voir si elle arrive correctement, si elle est prise en charge correctement, et si elle est éliminée correctement éventuellement par l'organe.
Ok. Écoutez, toi Adil, alors par rapport à la médecine nucléaire, je sais que ça t'avait intéressé à un moment. Comment t'étais arrivé à connaître cette branche ?
Cette spécialité, ben moi j'ai passé mon bac en 2017, du coup, et l'année d'après, je suis passé par la PACES. La PACES, c'est la première année, et c'est un concours pour les études de santé, et j'avais un de mes professeurs qui était lui-même médecin nucléaire, qui nous enseignait la physique. Ce professeur était super sympa et il avait l'air vraiment très chaud dans ce qu'il faisait. Sa spécialité m'avait intrigué, surtout que la médecine nucléaire, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément quand on est en primaire ou en collège et lorsqu'on rêve qu'on est petit et qu'on rêve de devenir médecin. D'accord, et c'est pour ça que c'est d'autant plus intriguant, c'est quelque chose que tu cherches à comprendre en fait.
Ok, bah écoute, ultra, ultra intéressant, on est là justement pour découvrir un petit peu plus.
Ouais.
Henri, est-ce que tu peux me parler un peu ton expérience, tes études en fait, avant d'être médecin nucléaire, les études que tu as fait, comment tu es passé par là, comment tu es arrivé à faire ces études aussi, on en parlait tout à l'heure. Et voilà, dis-moi un petit peu.
Ben, tout simplement, donc mon père était déjà médecin, était médecin nucléaire, et c'est vrai que quand je suis allé chercher mes résultats du bac, parce qu'effectivement avant il n'y avait pas d'ordinateur, donc il fallait aller dans le lycée où on avait passé le bac. En rentrant, outre le fait qu'il m'a dit on va dire à ta mère que tu l'as pas eu, ça c'était la petite blague de départ, il m'a dit mais l'année prochaine tu fais quoi? Et c'est vrai qu'avant, bah, quand tu étais en troisième, tu passais en seconde, quand tu étais en seconde, tu passais en première, quand tu étais en première, tu passais en terminale, donc il y avait une espèce de train-train quotidien qui faisait que je m'étais pas trop posé la question de ce que j'allais faire l'année d'après. Et donc il m'a dit tout simplement, écoute, si tu t'inscris en médecine, je pourrais t'aider. Si tu fais autre chose, ben là, je pourrais pas t'aider. Alors, petite anecdote, j'avais évidemment demandé et envoyé des dossiers de prépa, puisqu'à l'époque, c'était quand même la voie royale quand on était bon en maths et en physique. Eh ben, on s'inscrivait dans une prépa pour faire maths sup, maths spé. J'étais pas suffisamment brillant pour y aller. Donc, je me suis orienté vers la médecine, ne connaissant rien à la médecine. Si ce n'est d'être allé chez l'ophtalmo pour faire faire des lunettes, mais j'avoue que je n'avais aucune idée du métier de mon père. Pour la petite anecdote, quand il travaillait à l'hôpital à l'époque, au centre anticancéreux, et la seule anecdote que j'avais, c'est que quand j'allais après l'école dans son bureau en attendant qu'il ait fini sa journée, bah, en fait, je voyais des chiens qui passaient sous des machines avec des bruits bizarres, et c'était le seul contact que j'avais avec sa spécialité. Donc, honnêtement, j'ignorais complètement quelle était sa spécialité, et je n'étais même allé jamais chez un médecin généraliste, donc je ne savais même pas ce que faisait un médecin dans sa vie de tous les jours.
Alors, quelle a été la bascule justement entre je ne sais pas du tout ce que fait mon père à je deviens ce qu'était mon père?
Alors, ça a pris un peu de temps quand même, ça s'est pas fait
Ouais,
aussi
j'imagine.
simplement que ça. Bon, mais donc moi aussi, j'ai passé, donc à l'époque ça s'appelait pas la PACES, mais le PCEM, un premier cycle des études médicales, où ben, on avait quand même un concours aussi qui était quasi aussi dur que celui de maintenant. Hein, il était. La seule différence qu'il y avait, c'est que les forts en maths, ils étaient tous en prépa, maths sup, maths spé. Et qu'aujourd'hui, ben, beaucoup de ces forts en maths, ben, se retrouvent, malheureusement pour les autres, en PACES. Et
Ouais.
donc, forcément, plus on est brillant, et plus on a une capacité de travail importante, et plus, ben, plus c'est facile de réussir. Donc,
Bien sûr.
aujourd'hui, il y a. C'est vrai que les forts en maths, on peut truster les places, je pense, alors que ces forts en maths de mon temps, bah, ils s'étaient égarés en maths sup, maths spé, et du coup, ils nous laissaient le champ libre. Donc après, bah, pendant mes études, j'ai appris la médecine, ou j'ai découvert la médecine un peu comme tout le monde. C'est vrai que j'ai eu la chance que mon père ouvre son cabinet privé, et donc l'été, en fait, je travaillais, je remplaçais son personnel. Et donc à partir de la quatrième année, en quatrième année, en cinquième année, l'été, ben, je travaillais dans son cabinet. Donc ce qui m'a permis de découvrir cette spécialité, qui était évidemment complètement ignorée dans les études médicales, et probablement encore plus à l'époque que maintenant. C'est vrai que j'étais attiré peut-être dans ma formation. Alors honnêtement, la chirurgie, non. Parce que je ne suis pas du matin, me lever très tôt pour aller au bloc opératoire, c'était pas mon kiff. Surtout que quand on est étudiant, on a l'habitude de se coucher très tard le soir, voire tôt le matin. Et donc, j'avoue que la pratique du bloc opératoire n'est pas très compatible avec des gens qui se couchent très très tard.
Justement, écoute, je suis curieux de savoir comment t'as vécu tes études, genre la période de tes études, comment c'était à l'époque.
Ben alors, le PACES, évidemment, on sacrifie sa vie.
Une année
On ne
de
peut pas avoir
charbon.
de vie sociale, amoureuse. Ou les copains, quoi. On bosse du matin au soir et on ne pense qu'à ça et on ne vit que pour ça. Donc je l'ai fait en 2 ans parce que j'avais pas compris la première année qu'il fallait bosser autant. Donc je me suis réveillé un peu tard. Donc la deuxième année, la deuxième passée, enfin ma deuxième première année, ça s'est passé beaucoup mieux. Et ensuite, eh ben, on découvre la vraie vie. C'était la folie, quoi. Jusqu'à la cinquième année, globalement, c'est on sort tous les soirs, on travaille un peu, quelques semaines juste avant les examens, histoire d'avoir les examens comme tout le monde. Et puis sinon, c'est la fête tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est, on noue des liens absolument incroyables avec des personnes aussi incroyables hein, que soi-même. Donc voilà, c'est une école de la vie incroyable. La seule chose que j'ai regrettée à la fin de mes études médicales, pour ceux qui sont effrayés par la soi-disant longueur des études, c'est que très honnêtement, j'aurais bien aimé que ça dure beaucoup, 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 beaucoup plus longtemps. Ce qui aurait permis de faire la fête beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Et toi, Adil, alors parle-nous un peu de bah maintenant du coup de ce que tu vis maintenant, puisque t'as passé la passée ceci, t'as passé ouais. Les premières années. Comment c'est? Est-ce que tu confirmes ce qui se passait à l'époque? Est-ce que c'est toujours le cas?
Pour ce qui est de la PACES, je vais confirmer. C'est vrai que c'est un sacrifice, mais j'irai même plus loin. On le ressent pas comme sacrifice dans le sens où, quand on est en PACES, être en médecine, c'est pas quelque chose d'acquis et c'est quelque chose qui mérite un peu ce combat, qui mérite ses efforts. Et c'est vrai qu'on y pense tout le temps. Et je me souviens très bien que parfois, quand je me couchais dans mon lit, je me disais, ok, est-ce que je vais être en médecine, est-ce que je vais un jour devenir médecin? Ça serait vraiment sympa ouais, si je pouvais y arriver. Et maintenant que j'ai passé cette étape, ben là je peux vous le garantir, ça en vaut vraiment le coup, hein. Ça en vaut vraiment la peine. Maintenant c'est super sympa et c'est vrai qu'on va nouer des liens en fait avec une promotion qu'on va suivre pendant 5 ans jusqu'à la fin de l'externat. L'externat, c'est la première partie, en quelque sorte, des études de médecine. Mais c'est vrai qu'on va nouer des liens avec des personnes qui sont géniales. Et ça va être des liens forts parce qu'on va vivre avec eux des expériences qui seront fortes, peut-être un peu dures aussi pour les prochains concours. Et on va aussi pouvoir s'identifier à eux parce qu'ils ont aussi passé cette étape de passer cette espèce de grand sacrifice. Du coup, oui, c'est une confirmation pour le coup.
Okay. Tous les deux, vous avez été d'accord pour me dire que l'année passée, c'était une année terrible, parce que c'était une année où vraiment il n'y avait plus de vie sociale, plus de vie amoureuse, plus rien, sauf le travail. Et je suis curieux de savoir comment, tous les deux, vous avez abordé cette charge de travail d'un coup.
Ouais, on l'aborde, je pense, simplement, parce que de toute façon, quand on sort du bac, enfin, peut-être à mon époque, c'était encore plus qu'avant, mais c'est vrai que on savait pas, on n'a pas une vie incroyable, enfin... Quand on est adolescent, on n'a pas une vie incroyable, on n'a pas la liberté qu'on a après, on n'a pas de voiture, on n'a pas de truc. Donc... Puis la vie suit son cours, donc on a des. On part en vacances avec les copains, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Donc la première année, de toute façon, on travaille, mais parce qu'on a. De toute façon, on sait qu'on n'a pas autre chose à faire. Donc, de toute façon, on n'imagine pas faire autre chose que travailler. De toute façon, après. C'est comme ça, on sait que les copains autour, ils le font. Je pense que la pression, elle est encore plus importante peut-être maintenant qu'elle ne l'était avant. Et donc, je ne pense pas qu'un étudiant en médecine... Bon, bien sûr, il râle, parce que quand il a des copains qui ne sont pas en médecine et qui sortent le week-end, etc., il est vaguement tenté. Mais je pense que la tentation, elle disparaît assez vite, parce qu'on sait qu'on n'a pas le choix et je pense qu'on est obligé d'y aller. Alors, je ne sais pas, Adil, comment tu le ressens ou que tu l'as vécu.
Est-ce que tu peux répéter la question?
Pas de problème. Je disais, cette année de passé, c'est un condensé de travail intense comme ça n'a jamais vécu avant.
Ouais.
Et ma question, c'était comment tu as abordé cette charge de travail d'un coup et comment tu as réussi à adapter ta routine, adapter ton quotidien à un changement radical de « bon bah je me fais plaisir avec mes copains » à « je travaille et je garde le mental pour ».
D'accord. Bah là, moi, je vais parler pour moi parce que c'est... un peu ma personnalité, mais moi je l'avais pris surtout comme un défi. C'est vraiment je l'ai pris simplement, c'est-à-dire je l'ai pris comme une espèce de compétition sportive et je savais qu'il fallait que je fasse des efforts, des espèces d'entraînement avant la grande compétition. Et c'est sûr, on peut être tenté par les copains à côté, ceux du lycée qui font autre chose, qui font des études un peu plus chill, qui demandent moins d'investissement, d'autant plus que maintenant il y a tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snap, tout ça, et t'es constamment confronté à leur sortie, à leur espèce de lifestyle qui vend du rêve, tout simplement. Quand toi, t'es simplement à la BU jour après jour et que tu révises, tu vois. Mais non, lorsqu'on est réellement motivé, en fait, les autres tentations disparaissent un peu dans le sens où il n'y a plus que ça qui prend la place. Et il y a l'envie, il y a vraiment le focus qui est sur l'objectif et qui n'en bouge pas. Enfin, okay. Après, je te parle de moi, bien sûr.
Ok, ok. Et oui.
Je crois que tu as dit une chose importante que je n'ai pas soulignée. Je crois qu'il faut vivre ça, ou enfin l'imaginer comme étant une compétition. Alors, une compétition, faites attention, c'est pas juste le match du dimanche avec les potes pour aller défier le quartier ou le village d'à côté. Il faut imaginer que c'est quand même, je pense, une compétition de très haut niveau, et ce qui nécessite un engagement. Et je pense que si on n'a pas l'esprit de compétition, un esprit, je pense, en plus exacerbé, il faut vraiment imaginer que c'est presque nos Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde, quoi.
Ouais, je comprends.
Je pense qu'on est en champion. Enfin, il faut imaginer qu'on joue la Champions League, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, je crois pas qu'on puisse gagner la Champions League ou la Coupe du Monde en dilettante. Je pense que ça n'existe pas. Et ben là, je crois, honnêtement, que sans toute proportion gardée, mais je crois qu'il faut jouer dans cette catégorie-là. Ouais. Si on n'est pas prêt à ça, je crois que c'est, à mon sens, les chances vont être très 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 maigres.
Bah, moi je comprends complètement. Bah, après le lycée, j'avais des copains qui sont aussi venus en PACES, et le problème qu'ils ont rencontré, c'était plus au niveau de la motivation et même d'une espèce de vision, de croyance en eux-mêmes. Et ce qu'ils me disaient, et ce qui revenait souvent, c'est ouais, moi je peux pas le faire en un an, ça se fera sans doute en deux. Et quand j'entendais ça, je leur disais, les gars, vous êtes juste en train de donner des places à d'autres personnes qui ne le méritent pas plus que vous. Et ce qu'il faudrait, c'est essayer vraiment de le faire en un an, de croire en vous et d'y aller, parce que la compétition, elle vous appartient aussi.
C'est très bien dit, c'est magnifique. Hein. Wow. Je vais revenir sur ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure. Comme tu disais, Henri, tu disais que c'était une compétition où tout le monde devait s'y donner, en soi. Est-ce que le travail acharné en lui-même suffit à être bien placé dans la compétition pour ensuite rentrer dans le numérus? Qu'est-ce qui fait la différence entre deux étudiants qui tous les deux travaillent d'arrache-pied?
Ouais, alors je crois que bien sûr il faut identifier l'objectif. Il faut comprendre en fait ce qu'on va demander. C'est-à-dire, pour ceux qui m'ont posé la question, je leur ai dit il faut apprendre son cours, mais pour apprendre son cours, il faut savoir comment l'apprendre. Mmh. Et moi, perso, j'avais trouvé un truc que j'ai réutilisé ensuite pour l'internat, c'est-à-dire qu'avant de répondre aux questions, j'ai lu les questions qu'on me posait, les QCM ou pas les QCM, selon comment c'était posé, et j'ai d'abord lu les QCM, je les ai lus, relus, et ensuite j'ai appris mon cours en fonction du QCM, parce que je crois qu'il faut non pas simplement apprendre son cours, je crois que l'erreur serait de dire voilà, mon cours je le sais par cœur et puis ça devrait suffire. Non, ça suffit pas du tout, parce qu'il faut identifier la question qu'on va poser pour savoir comment on va y répondre à cette question. Alors, bien sûr, la réponse elle est dans le cours, mais je crois qu'on va pas la chercher pareil si on sait exactement ce qu'on va nous poser comme question. Faut imaginer en plus que les questions qu'on va poser sont pas forcément des questions sur la partie importante du cours, mais là on va pouvoir nous poser des petits détails, et un infime détail, en fait il faudra connaître la réponse aussi bien que la question la plus importante du cours, qui peut-être ne tombera jamais le jour de l'examen. Donc c'est ça qui c'est compliqué, parce que si on n'a pas, au-delà de la quantité de travail à fournir, si on n'a pas appris exactement quel était l'objectif, je crois que c'est des choses qu'on apprend dans toutes les compétitions sportives. Il faut être prêt le jour J, il faut savoir utiliser les éléments qu'il va y avoir. Et je sais pas, un sauteur à la perche, s'il ne sait pas sauter le jour où il y a du vent, le jour où il y a du vent, si dans la compétition il y a du vent, ce n'est pas la peine qu'il se prépare. Donc je crois qu'il faut vraiment anticiper au maximum les questions qu'on va nous poser. Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est vraiment d'apprendre en fonction de la question qu'on va nous poser. Si on a des QCM, on n'apprend pas pareil que si on a une question rédactionnelle, que si on a des questions à choix multiples. Enfin, il y a tout un tas d'astuces, mais qui sont, à mon sens, fondamentales, parce que ça va se jouer aussi sur les détails. Plus que... on l'entend partout dans toutes les compétitions. Des fois, ça se joue sur les détails, mais là, c'est un détail qui, à mon sens, n'en est pas un. Adil, je ne sais pas si tu as le même ressenti...
Je suis complètement d'accord sur ça.
Je voulais savoir si dans la médecine nucléaire, il y avait aussi beaucoup de contacts avec le patient, en fait. comment c'est, parce que tous les jours, vous recevez des patients qui viennent pour un diagnostic, c'est ça?
Exactement, oui.
Et vous aviez pas, enfin, tu as parlé de suivi après. Est-ce que tu revois le patient? Est-ce que...
Alors, la médecine nucléaire a ceci ancré, chevillé au corps, c'est qu'effectivement, on dit que l'acte, souvent, n'a pas une spécificité qui est très importante, c'est-à-dire que pour une... Si on prend la pathologie osseuse, un même signal pourra être, enfin, on pourra avoir un même signal pour différentes pathologies. Et en fait, c'est la connaissance du dossier et la connaissance du patient qui va nous permettre en fait de rapporter cette et d'augmenter cette spécificité. Donc, on ne peut pas interpréter une scintigraphie si on n'a pas vu le patient. Et ça m'arrive tous les jours d'examiner tous mes patients, quand le patient il a mal au pied, de lui poser la question pourquoi, s'il est tombé, s'il fait du sport, s'il est, si c'est juste parce qu'il a fait un footing, si c'est parce qu'il est tombé dans les escaliers, si c'est parce qu'il a rien fait, et mon diagnostic ne sera pas du tout le même. Donc oui, c'est hyper important de voir tous les patients, et je vois tous les patients, donc entre 30 et 50 par jour, et oui. Il faut absolument, 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 absolument voir son patient. Donc oui, le contact en médecine nucléaire avec le patient, il est là.
Et du coup, dans une journée type pour toi, quelles sont tes difficultés au quotidien, enfin, qu'est-ce que tu vis au quotidien comme difficulté dans ta journée type?
Alors, des difficultés, il n'y en a pas tellement, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe qui est vraiment, je pense, très très impliqué. Donc dans une équipe de médecine nucléaire, ça commence par le secrétariat, ensuite c'est les manipulateurs radio qui prennent en charge le patient en fonction des directives qu'on a données ou pas données. Des difficultés, bah, et ensuite il faut être approvisionné en produits radioactifs, il faut que la machine marche, mais ça c'est vrai dans tous les métiers, dans toutes les spécialités, on a des contingences, mais non, il n'y a pas de difficultés particulières. Je sais qu'il y a beaucoup de confrères qui ont des difficultés, c'est dans la relation qu'ils peuvent avoir avec les malades.
D'accord.
Voilà. Donc ça c'est vrai que c'est pas forcément simple, parce que des fois, bon, on a des pathologies qui sont pas forcément graves, mais on a beaucoup à faire à la cancérologie, et donc c'est vrai qu'il faut savoir parler à un patient, parce qu'on n'a pas forcément des choses très rigolotes à lui apprendre tous les jours. Et on veut lui apprendre que finalement il a un cancer, que finalement son traitement ne marche pas, que c'est plus grave que prévu. Donc tout ça, il y a la relation médecin-malade qui fait partie intégrante, et c'est ça, je pense, peut-être le plus compliqué dans la vie de tous les jours. Difficultés, il y en a dans tous les métiers, mais je crois que dans les spécialités médicales, je crois qu'il me semble que le plus compliqué, ça peut être effectivement la relation qu'on peut établir avec un patient.
Au téléphone, tu me racontais que tu mangeais pas le midi, et ça m'a surpris sur le coup, et du coup j'aimerais te demander comment t'organises ta journée en fait. C'est quoi, tu commences le matin tôt, tu commences à quelle
heure? Je commence à 8h le matin, oui, j'arrive dans mon cabinet à 8h, alors souvent effectivement le patient est pris en charge par mon équipe, ensuite il faut injecter ou administrer du moins les produits radioactifs, réaliser l'image, donc ça prend un peu de temps en temps c'est nous qui faisons quand même les injections dans des choses un petit peu particulières. Et puis après, globalement, on a les patients qui s'enchaînent. Donc en fait, on travaille en continu, donc ça ne s'arrête jamais. Donc, puis j'ai une sainte horreur, c'est que les patients attendent pour rien. Donc j'essaie de faire en sorte de ne pas faire attendre les patients, parce que je n'aime pas. Et puis concernant le fait de ne pas manger, plutôt que de manger à la cantine, quelque chose qui n'est pas très intéressant, je suis assez épicurien, donc j'adore manger, j'adore tout ce qui est la nourriture et la vie de tous les jours, donc je ne mange pas juste pour manger, et pour tenir, en fait, je bois du café. Est-ce que donc fait, le café est le meilleur ami du médecin nucléaire. Et si, par contre, quoi, c'est ça, c'est ce qu'on n'apprend pas en passé, c'est que si on ne boit pas de café, on ne peut pas faire médecine nucléaire.
Ça sera dans le prochain QCM. Est-ce que tu veux nous raconter un des plus beaux souvenirs que tu as eu du coup en rapport avec la médecine et...
Alors, c'est vaste. Moi, je sauve pas des vies tous les jours. J'ai pas mis beaucoup d'enfants au monde. Non, là, un souvenir que j'ai un peu ému, c'est quand je faisais dans mon premier stage d'interne, donc après l'internat, effectivement, j'étais au SAMU Urgence à l'hôpital de Béziers. Et c'est vrai qu'à l'époque, on sortait sur les appels juste l'ambulancier et juste l'interne ou le médecin dans le camion. C'est vrai que c'était un peu chaud parce qu'on découvre pour la première fois la vraie médecine. Alors on est au contact et là, il n'y a personne. Hein. Il n'y a pas de senior, il n'y a pas de staff, il n'y a pas d'équipe multidisciplinaire autour de soi. On a les décisions à prendre et je suis tombé sur un jeune qui s'était enroulé autour d'un arbre et j'avoue que je l'ai perfusé deux voies dans le camion, enfin dans sa voiture, pardon, avant que les pompiers ne le désincarcèrent. C'est un souvenir compliqué, ouais, parce que je l'ai ramené vivant, mais je faisais pas le malin.
Ouais, j'imagine. Et écoute, j'ai fait un peu des recherches sur la médecine nucléaire, notamment le futur que ça pourrait un peu prendre. Et j'ai vu qu'il y avait des recherches qui se faisaient sur l'intelligence artificielle couplée à l'imagerie nucléaire.
Ouais.
T'en as entendu parler ?
Oui, alors c'est quelque chose effectivement dont on entend parler en imagerie médicale tout court. Hein, donc ça existe pour la radiologie. J'ai relu des papiers il n'y a pas longtemps quand même, où il y a beaucoup d'articles hein, sur ça. Bon, pour l'instant, ça n'a pas d'application pratique pour aujourd'hui. C'est vrai que ce qu'on dit, c'est que ça permettrait de remplacer les médecins radiologues la nuit ou le médecin nucléaire. Mais finalement, c'est faire appel à la pénurie peut-être professionnelle. Donc je pense que oui, si c'est des grosses boîtes qui veulent acheter... Enfin, pour moi, j'ai un avis sur ça. Alors que ce soit une aide, j'en doute pas. Que ce soit un avenir... Bah, un avenir proche, je sais pas. Moi, je le vis plutôt comme étant des grosses boîtes qui vont acheter des cabinets de radiologie, qui vont mettre les radiologues dehors, qui donc empocheront les bénéfices directement. Ce sera une machine qui fera le diagnostic. La machine ne fera le diagnostic que s'il y a quelqu'un qui, en tout cas, qui a rempli des pages et des pages concernant le patient. Et ça... Pour l'instant, je suis pas sûr que la machine ait accès à comment s'est déroulé l'incident du patient qui a permis, qui l'a entraîné son état. Donc, pour l'instant, que ce soit une aide dans certains cas, j'en doute pas. Que ce soit dans un avenir proche, écoute, sur les 20 prochaines années, j'ai des doutes.
Et pour un petit mot de la fin, quel serait le conseil que du coup Henri et Adil vous pourriez donner aux premières années qui rentrent là dans leur première année de PASS, parce que maintenant avec la
réforme, ça a changé. Alors, je sais pas ce que va devenir les études. Je crois que de toute façon, pour être médecin, je suis pas sûr que la population ait envie d'avoir des médecins qui soient pas hyper bien formés, et qui soient les meilleurs possibles. Donc je pense que ça restera toujours un métier qui va nécessiter d'être au top pour réussir. Donc il faudra être brillant dans ses études, ça ne veut pas dire être très intelligent, ça ne veut pas dire avoir 20 sur 20 en mathématiques et en physique ou en je ne sais quoi au baccalauréat. Mais je crois que oui, ça sera toujours un métier, et j'espère que ça restera un métier élitiste, parce que c'est à ce seul prix-là qu'on pourra espérer qu'une population soit bien soignée.
Adil, un petit mot ?
Ben, moi, je reviens sur ce qui a déjà été dit. Même si on va vous demander d'être très compétitif, d'être très bon, et que ça sera sans doute une formation qui sera élitiste, il ne faut pas croire que ce n'est pas accessible pour vous. C'est quelque chose qui est abordable pour n'importe qui à partir du moment où n'importe qui peut se motiver, se chauffer et être prêt à fournir les efforts pour y arriver, en fait.
Voilà. Je vous remercie. Écoutez, Henri, Adil, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et j'espère vous revoir très bientôt.
Eh bien, ce fut un plaisir de partager ces quelques paroles avec toi et avec Adil.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as bien aimé, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de mettre 5 étoiles au podcast. Tu seras mieux référencé, ça nous aidera à trouver de nouveaux invités. Sur ce, Jeanne Carabin, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.